France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Quand vous allez sur les marchés de plein air, le dimanche matin, on voit des têtes de veau, parce qu'il y a encore des amateurs de têtes de veau, non pas de têtes de veau roulées, bien propres, bien nettes, mais des têtes de veau entières, de ce qu'on appelle un cuir de veau. Alors le cuir de veau, c'est la tête quand elle a été épilée, échaudée, et elle paraît de ce blanc d'ivoire absolument formidable. Alors il y a des gens qui préfèrent voir ça, et puis ils la désossent dans leur cuisine, et ils ont la cervelle, et ils ont la langue, et ils préfèrent ce plat absolument formidable.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Vous surprendre parfois. Oui, j'en ai le goût. Et il se peut bien que ce soit le cas ce matin, car nous allons, figurez-vous, parler de quoi ? Parler de la tête de veau, telle qu'elle a pu surgir et s'affirmer avec persévérance sur la table des repas. Le pari sera de vous démontrer que cette tête-là a beaucoup à nous dire. Il ne s'agit pas seulement, bien entendu, des aventures et des malaventures de sa préparation, avec du solide et du gluant, de la cervelle, de la joue, de la langue, des oreilles. Il s'agit de faire une histoire sociale de sa consommation, oscillant entre les élites et les classes populaires. Sans compter l'intérêt d'une histoire politique de la tête de veau. Car en France, comme en Angleterre, elle s'est trouvée directement mêlée au souvenir de la décapitation de deux souverains, Charles Ier et Louis XVI, au cœur de festins républicains. Elle s'inscrit dans un spectre qui va de la fête joyeuse à la légende noire, depuis les temps les plus reculés et, récemment, des romanciers du XIXe siècle jusqu'aux surréalistes, depuis Gustave Flaubert jusqu'à André Breton. Nous nous sommes intéressés ici souvent aux nourritures terrestres, mais à vrai dire, je n'aurais pas eu l'idée de vous entraîner vers ces agapes spécifiques si je n'avais pas trouvé sur ma table le livre succulent, c'est le cas ou non de le dire, que Pierre Michon, docteur en histoire, vient de publier sur ce grand sujet de la tête de veau dans la longue durée. Il y évoque en abondance les images et les mots qui s'en inspirent et qui tournent à la ronde, piquants, insolents, obsédants ou inquiétants. Il nous propose, en passant, une efflorescence de recettes. En somme, il rend la tête de veau familière et amicale aux plus réticents. Je précise que Pierre Michon est aussi rédacteur des débats au Sénat et il nous dira peut-être en passant si c'est à la table vénérable du palais du Luxembourg qu'il a acquis la compétence rare dont il va nous faire profiter. Et d'abord, nous écoutons Maïté, célèbre cuisinière de la télévision, en janvier 1993.
Bonjour.
Bonjour.
Maïté, je suis impressionnée.
Jolie, hein ?
Qu'est-ce que vous allez nous faire ?
Tête de veau sauce ravigote.
Pour ça, il faut beaucoup d'ingrédients. Je trouve ça très vert, ça. Vous êtes très à la mode, hein. Vous êtes passé au vert, Maïté.
C'est écolo.
Écolo. Ça y est.
C'est écolo, c'est la mode.
Alors, presque végétarien.
Voilà, presque.
S'il n'y avait pas la tête.
Et puis, elle passe pas inaperçue.
Je me demande comment vous allez la faire. Mais d'abord, il faudrait que vous nous disiez ce que c'est que tous ces ingrédients nécessaires pour faire une tête de veau à la sauce ravigote.
Bon, eh bien, il faut beaucoup de choses et pas grand-chose dans le fond. Hein. Il faut des carottes. Il faut de la ciboulette, il faut du poireau, il faut de l'estragon, de l'oignon, du laurier, de l'ail, du persil, du thym, de l'échalote, des œufs, du citron, du cerfeuil, et puis voilà.
Et enfin, le plus compliqué, c'est la tête. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ?
Eh bien, on va la couper en deux, pour commencer.
Il faut la découper, mais il faut aussi la désosser complètement, Maïté.
Entièrement.
Et pour vous qui nous écoutez, si vous voulez faire une tête de veau, mais vous pouvez la demander au charcutier toute prête.
C'est très encombrant. Voilà, alors, là, on la remet. Toutes les ossées, toutes, c'est voilà le paletot. Ça, c'est la
on
langue.
On ne connaît plus rien, on ne sait plus où on en est.
On lui a enlevé les dents, on lui a tout enlevé, on lui a laissé la langue que je laisse au milieu et on la roule.
Ah, voilà. Ah, on retrouve l'oreille là.
Oui, là. On va le remettre l'oreille en dedans, on lui redonne la forme et puis on la ficelle comme on sait. Ça, c'est pas,
comme un rôti.
On n'est pas obligé de ficeler, voilà. C'est bon, je vais saler, je poivre. Voilà.
Pierre Michon, bonjour.
Bonjour.
Maïté s'exprimait là, en dialogue avec Micheline Banzet, le 25 janvier 1993, sur France 3, l'émission s'appelait « La cuisine des mousquetaires ». Vous l'avez écouté quelquefois, Maïté ?
Ça m'est arrivé, oui, oui. Plutôt des souvenirs d'enfance.
Alors, je voudrais, une fois n'est pas coutume, vous interroger d'abord sur les racines de votre curiosité, l'origine du goût qui a surgi chez vous de traiter de ce sujet. De prime abord, surprenant.
Surprenant, je ne sais pas, c'est un sujet de gourmand, à n'en pas douter. Et la gourmandise, c'est aussi l'un des plaisirs de l'histoire. Donc l'histoire de la tête de veau, ça me paraissait tomber sous le sens.
La tête de veau suscite aussitôt des réactions un peu multiples et diverses. Parfois, elle a été présentée comme un épouvantail des femmes et des enfants.
Oui, oui, tout à fait.
Beaucoup de préjugés, indigestes, rustiques, franchouillards.
C'est Charles Fourier qui parle d'elle comme de l'épouvantail des femmes et des enfants, effectivement, début du 19e siècle. Bon, les abats, dans l'ensemble, c'est, sans tomber dans la caricature, c'est plutôt une nourriture d'hommes. Il y a des boissons d'hommes et il y a des nourritures d'hommes aussi.
Avec l'idée que c'est très français, même franchouillard, en même temps que rustique et indigeste. Franchouillard, c'est pas vrai, en fait, non. De montrer très bien que c'est un plat quasiment universel, lui donner toute son ampleur.
Bien sûr, mais je l'ai découvert en cours de route. Je partais moi-même avec ces préjugés très très répandus, en vérité.
Il y a toutes sortes de présentations de la tête de veau, ravigote, gribiche, à la Sainte-Ménehould de même. Tout ça est assez fascinant.
Vous avez une infinité de recettes, bien sûr. Quand on pense à la tête de veau, on pense aux deux sauces classiques qui se sont imposées au fil des siècles, ravigote et gribiche. Mais vous avez, bien entendu, la tête de veau poulette, la tête de veau aux champignons. Vous pouvez la proposer également farcie, à la manière du puits certain, très très en vogue sous le Premier Empire. Mais la tête de veau farcie continue au moins jusqu'à l'entre-deux-guerres. Vous avez, dans les livres de recettes des années 1920, une recette savoureuse de tête de veau dite à la grosse nounou, qui a l'air très, très appétissante, je n'ai pas essayé.
La Sainte-Ménehould ?
Oui, panée à la manière de Sainte-Ménehould.
Farci ?
Oui, oui, oui.
Et puis, nous aurions tort de nous targuer d'une sorte de nationalisme malvenu en disant que la tête de veau est un plat français. En fait, vous la montrez à la fois flamande, polonaise, italienne, hongroise et même piémontaise. À la Cavour, c'était le fameux homme d'État qui a été à l'origine de l'unité italienne. Pourquoi à la Cavour ?
L'homme du Risorgimento. Alors, les recettes à la Cavour, on en a une infinité dans la cuisine classique italienne. Je ne suis pas certain que Cavour soit à l'origine de grand-chose dans cette affaire, mais c'était un hommage aussi rendu à l'unificateur de l'Italie. Effectivement, la tête de veau n'est ni française ni franchouillarde, elle est devenue française par la grâce de l'histoire.
Donc, dans l'espace universalité de votre tête de veau, et dans le temps aussi, parce que vous montrez bien que dès l'Égypte ancienne, dès les Romains, on la voit apparaître du côté du fameux festin de Trimalcion, du Satyricon de Pétrone, la tête de veau est en majesté.
La tête de veau, mais même bien avant, quand on remonte à la 18e dynastie égyptienne, voilà, on la retrouve dans les offrandes funéraires des pharaons. C'est véritablement un morceau de roi, un morceau de choix.
Et symboliquement, c'est un gage d'opulence et en même temps aussi inquiétant. C'est aussi une symbolique de la mort, nous allons voir tout cela.
Bien sûr. Alors, l'opulence, elle apparaît clairement. dans la capacité de la tête de veau à symboliser la puissance agraire. La tête de veau, c'est le symbole du bétail. Et c'est la tête de l'animal, c'est le chef de l'animal qui doit revenir au chef du groupe. Mais c'est également, bien entendu, la tête de mort. C'est une vanité, la tête de veau.
Il y a un fameux film avec Piccoli.
Bien sûr. Au tout début de la grande bouffe, Michel Piccoli médite dans une chambre froide, face à face, avec une tête de veau échaudée. Et c'est une scène silencieuse extrêmement frappante qui annonce le thème du film entre débauche de gourmandise et tentation du suicide. Bon, je ne veux pas flanquer le bourdon d'entrée de jeu à nos auditeurs. La tête de veau, c'est avant tout une réjouissance. J'espère vous en convaincre.
Oui, oui, vous allez y réussir à coup sûr et je ne vous permettrai pas d'assombrir par trop notre émission. Alors, je voudrais que nous voyons d'abord ce qu'a pu être l'âge d'or de la tête de veau, même si nous sommes allés assez loin en arrière. Vous montrez bien dans votre livre, Pierre Michon, que l'âge d'or commence au XVIIe siècle.
Oui, on peut l'estimer. C'est un âge d'or qui a duré vraiment très longtemps. On peut même le faire commencer un peu plus tôt, à la Renaissance. C'est une époque faste pour la triperie, qui connaît ses lettres de noblesse, qui est très appréciée, notamment à la cour des Valois. François Ier est un amateur invétéré de tête de veau. L'âge d'or se poursuit à l'époque moderne, pendant toute l'époque moderne, et se prolonge également au XIXe siècle à la faveur de la démocratisation progressive de la viande. Et la viande se démocratise grâce aux abats, notamment grâce à la tête de veau.
Non sans concurrence de longue durée entre les bouchers et les tripiers.
Alors ce sont deux professions différentes, en tout cas dans les grandes villes, et notamment à Paris. La boucherie est réservée à la bourgeoisie. La triperie est un commerce beaucoup plus populaire. Les petites gens vont chez le tripier. Alors, pas pour se procurer de la tête de veau, en tout cas jusque tard, nous en reparlerons sans doute, mais il y a un tournant en 1830 quand les tripiers sont officiellement autorisés à vendre des abats de veau, dont la tête de veau. Ce qu'on achète chez le tripier précédemment et encore dans les décennies qui suivent, ce sont plutôt des abats de porc, de mouton, des abats beaucoup plus économiques.
Très concrètement, comment les choses se passent-elles lorsque le cuisinier se trouve devant l'animal et qu'on en coupe la tête? Dites-nous, Pierre Michon.
C'est nécessairement une rencontre entre la ménagère, le cuisinier, et la tête du veau. Alors il faut déjà, historiquement, au moins jusqu'à la guerre de 14, il faut acheter sa tête de veau. On ne l'achète pas comme aujourd'hui, toute préparée et ficelée, désossée et roulée sur la langue, on l'achète généralement entière, c'est-à-dire que vous arrivez de bonne heure le matin chez votre boucher ou chez votre tripier et vous regardez ce qu'il a de beau à vous offrir et vous examinez, si le cœur vous dit de déguster une tête de veau, eh bien vous examinez le produit. Alors en général, la tête de veau est au XIXe siècle dans un baquet d'eau froide devant la boutique.
Elle est vendue avec son poil là.
Et elle est vendue, alors idéalement, nous disent les bons auteurs, telle qu'elle se détache du corps de l'animal. Mais petit à petit, tout de même, on considère que le premier échaudage et le rasage de la tête de veau sont des étapes très fastidieuses et les bouchers et les tripiers se chargent de cette première préparation. Mais il reste quand même une bonne partie du désossage à faire et surtout la cuisson de la tête entière qui demande un certain temps. Ça n'est pas rien. Ça se mérite, une bonne tête de veau.
Il faut extraire le sang qui résiste à l'intérieur et par conséquent faire dégorger dans de l'eau vinaigrée.
Voilà, oui, au moins une bonne nuit, oui. Bon, ça prend du temps, ce n'est pas le plus difficile à faire, mais il faut quand même les récipients en conséquence.
Certains auteurs, nous dites-vous, conseillent d'envelopper la viande d'un linge blanc, mousseline ou calicot pour qu'elle ne soit pas terne et qu'on obtienne une tête de veau bien blanche. Cette couleur blanche est importante à la fois dans la réalité et dans la mythologie de la tête de veau.
Bien sûr. Dans la réalité, c'est un critère esthétique qui a vraiment toute son importance. D'ailleurs, les cuisiniers et les gourmets français se targuaient. Et là, on touche aux origines nationales de ce plat. du moins ce qui explique le caractère national de la tête de veau. Les cuisiniers français vous expliquent, encore une fois, au XVIIIe, XIXe siècle, qu'il n'y a qu'en France qu'on sait vous cuisiner de belles têtes de veau bien blanches et non écorchées.
Non, mais tout de même, seuls les Français, c'est ça?
Bien sûr, seuls les Français. Les Allemands, nous expliquent-ils également, les écorchent, enlèvent, c'est-à-dire le cuir qui enveloppe la tête de veau, ce qui donne un résultat peu ragoûtant.
Dites-nous un mot des sauces qui sont évidemment très très importantes. Vous en avez déjà évoqué
la litanie.
Mais la ravigote et la tortue aussi.
La mère de toutes les sauces pour la tête de veau, bien
entendu. C'est-à-dire du vinaigre.
Voilà. Alors, une base de vinaigrette. La tête de veau vinaigrette, c'est l'incontournable et on peut considérer que dès l'époque médiévale, elle est consommée. Hein, la vinaigrette est de toute façon, le mélange d'huile et de vinaigre est une préparation tout à fait instinctive. Ce qui change avec la ravigote, qui apparaît du moins sous ce nom à partir du début du XVIIIe siècle, c'est l'introduction massive des aromates et de certains condiments. Les herbes dites à ravigote qui ont vocation à vous revigorer. Donc vous avez pimprenelle, estragon, cerfeuil, persil. Vous avez également une infinité de recettes de ravigote. Mais la sauce ravigote, donc, qui vraiment s'impose sous le règne de Louis XV, nous rappelle également que la tête de veau est un aliment destiné à maintenir, voire à rétablir la santé. Il n'y a pas que la sauce qui vous ravigote, c'est la tête de veau elle-même qui est destinée aux malades, aux jeunes accouchés, à tous ceux qui commencent un petit peu à flancher. Eh bien, hop, rien de tel qu'une bonne tête de veau pour vous remettre sur pied.
Ça, c'est très important, puisque nous faisons, Pierre Michon, un hommage, on peut le dire, à la tête de veau à travers les siècles.
Vibrant.
D'évoquer cette propriété dont on la part en disant qu'elle peut guérir beaucoup. Je vois que le chirurgien François Morisseau, en 1668, dans son traité des maladies des femmes grosses et de celles qui sont accouchées, explique qu'il faut administrer aux femmes enceintes un clistère préparé avec le bouillon d'une tête de veau ou de mouton, bien cuite, y mêlant 2 onces d'huile, ou bien avec lait gras, dans lequel on aura délayé 2 jaunes de frais. Je crois que nos auditeurs et nos auditrices vont se précipiter pour tâcher d'essayer cela.
C'est impératif, non. Et alors, c'est une application parmi tant d'autres, la tête de veau. Quand on fait la compilation de toutes ses vertus médicales et médicinales, on s'aperçoit que c'est une véritable panacée.
De tous les remèdes à base de tête de veau, le plus original, semble-t-il, a été imaginé par votre ami, le docteur David Gruby, qui est un Hongrois de naissance et qui a été parisien d'adoption et qui a été l'ami de nombreuses personnalités de son temps, très très chic.
Chopin, Balzac, George Sand furent les patients, tour à tour, du docteur Gruby.
Il a su vraiment s'attirer une clientèle particulièrement élégante. Or, la légende rapporte que...
Qu'une de ses patientes, souffrant d'un embonpoint tout à fait excessif, lui avait demandé un remède pour maigrir. Et le docteur Gruby lui avait rédigé une ordonnance ainsi conçue. Premièrement, marcher de l'Arc de Triomphe à la Bastille en tenant une orange dans chaque main. Deuxièmement, préparer une tête de veau entière, puis se baigner dans le bouillon de cuisson. Et c'était l'occasion détournée, grâce à la complicité de la tête de veau, de faire de l'exercice. Une seule chose fut pénible à cette patiente, confia Gruby après coup, c'était les yeux de la tête de veau qui semblaient la fixer dans le bain.
Permanence du caractère inquiétant, presque démoniaque, diabolique des yeux de la tête de veau.
Indubitablement.
Pierre Michon, cette histoire de la tête de veau à laquelle nous nous consacrons ce matin. Alors, il y a aussi Gribiche.
La Gribiche.
Et puis, à la tortue, expliquez-nous ça.
Oui, alors la sauce Gribiche, l'actuelle grande rivale de la ravigote, beaucoup plus récente. On est plutôt là dans les années 1880-1900, à base d'œufs durs. Vous prenez un jaune d'œuf dur que vous délayez, que vous écrasez préalablement, huile, vinaigre, le blanc haché, et vous ajoutez les aromates qui sont peu ou prou les mêmes que dans la ravigote, en ajoutant également capres et cornichons. La sauce tortue, alors là, on a également une recette tombée en désuétude. Malheureusement, je dois vous avouer que je n'ai jamais mangé de tête de veau en tortue.
Ça vient de loin, puisque des expéditions lointaines avaient conduit certains à vouloir utiliser la tortue.
Alors, effectivement, à l'origine de tout cela, vous avez la soupe à la tortue, consommée assez largement par les colons des Caraïbes. À la suite de quoi, en Angleterre, on développe une autre recette, la soupe à la fausse tortue, à base de tête de veau, censée imiter les morceaux de viande de tortue. Et enfin, s'inspirant de cette recette, vous avez, tournant 18e-19e siècle, la tête de veau en tortue, qui est un plat de tête de veau en sauce avec une sauce financière.
Cela symbolise en fait, Pierre Michon, cette démocratisation de la tête de veau au 19e siècle, sur laquelle vous insistez, et qui va conduire le malheureux Georges Courteline à une expérience qu'il raconte douloureusement dans ses mémoires. Il est à ce moment-là élève en 6e dans un lycée, il va chez son correspondant, et voilà le moment qu'il va vivre.
J'avais jeté de côté un coup d'œil sur la table. Une soupière, basse et fermée, flottant dans une buée transparente et légère, trônait au centre de la nappe.
Jeune homme, mettez-vous à table et préparez-vous à une grosse surprise.
J'obéis, m'installai en face de Monsieur Poirot et commençai de déployer ma serviette tandis que mon correspondant amenait doucement à lui la mystérieuse soupière. Et d'avance, escomptant quelques chefs-d'œuvre culinaires, je me pourléchais les babines quand Poirot, en levant brusquement le couvercle, découvrit à mes yeux navrés une tête de veau toute fumante. Or, je ne sais ce que nous nous sommes fait, la tête de veau et moi, mais nous professons l'un pour l'autre une haine mutuelle et cordiale. Fort d'un sentiment dont je n'étais pas maître, je déclarai à Monsieur Poirot que je ne me déciderais à manger de sa tête sous aucune espèce de prétexte et à aucune espèce de sauce.
Jeune homme, vous m'étonnez. La tête de veau est l'ami de l'homme.
Je répondis qu'elle n'était pas la mienne. Mais Monsieur Poirot, qui s'y connaissait mieux que moi, m'affirma que je me trompais et que la tête de veau, justement, se trouvait être ma plus chère et ma plus précieuse amie.
Vous ne savez pas ce qui est bon. La tête de veau en vinaigrette est un véritable plat de gourmet et elle était en grand honneur chez les empereurs de la décadence.
Tant d'érudition m'éblouit, mais n'arriva pas à me convaincre. Je hasardai timidement que je n'étais en aucune façon empereur de la décadence, mais simple élève de 6e.
N'importe ! Ayez confiance en ce que je vous dis, goûtez-en seulement un tout petit morceau, et nous en recommencerons ensuite.
Je me récriais, je hurlais, je pleurais, mais le cruel Monsieur Poirot fut inflexible et délicatement. Du bout de sa fourchette, il déposa dans mon assiette quelque chose de noir avec un trou dedans. Je regardais. C'était l'œil.
Mangez !
Commanda Monsieur Poirot d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. Alors je ne sais plus ce qui se passa. Je devins fou, je perdis connaissance et fermant précipitamment les yeux, j'avalai d'un seul coup l'œil horrible du veau.
C'était un extrait de L'œil de veau, une nouvelle autobiographique en fait de Georges Courteline, ici interprétée en 1955.
C'est un souvenir personnel, effectivement, de Georges Courteline. C'est aussi sans doute un hommage à son père Jules Moineau, qui avait comme lui une légère obsession pour la tête de veau. Jules Moineau déclarant à peu près à la même époque, donc à la toute fin de sa vie, « S'il n'y avait que moi et une tête de veau sur la terre, la fin du monde viendrait bientôt. »
Courteline évoque un moment qui est vraiment, qui correspond à une sorte de zénith de la tête de veau, nous le montrez oui. Très bien, Pierre Michon.
C'est le moment où l'on frôle presque l'indigestion de tête de veau. Vous avez cette petite mention dans un article signé d'Alfred Satie, le père d'Éric, qui faisait des chroniques pour quelques revues, et qui, notamment pour une revue cycliste, et qui raconte quelques années plus tard que quand on fait une petite promenade à vélo dans les environs de Paris et qu'on veut s'arrêter pour casser la croûte, eh bien, on tombe immanquablement sur la tête de veau et que ça commence à bien faire.
Oui, en somme, c'est le moment où la tête de veau va parcourir tout l'ensemble de l'échelle sociale.
Elle est partout. C'est toujours le plat de fête. Elle garde ce prestige ancien. C'est typiquement l'entrée ou le relevé des mariages de campagne. C'est aussi le plat du dimanche dans les familles de la bourgeoisie. Au passage, la tête de veau, c'est économique. Vous en mangez le dimanche, mais après, il vous reste le bouillon. Et vous pouvez accommoder les restes le lundi ou le mardi. Donc, c'est tout à fait avantageux. Et c'est également le petit plaisir des classes moyennes dont Gambetta annonce l'avènement et des classes populaires qui peuvent s'en offrir de plus en plus puisque la triperie et l'élevage se sont bien développés.
C'est une évolution que l'on constate aussi en Angleterre, vous nous le montrez bien, en signalant que Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles présente un personnage de tortue à la tête de veau.
Voilà, oui,
on retrouve les noces étranges de la tortue et de la tête de veau.
Voilà, tout à fait, ce clin d'œil, oui, à la tête de veau en tortue.
Et si je parle de l'Angleterre, c'est pour nous conduire à un autre volet de cette histoire de la tête de veau à laquelle nous nous consacrons ce matin, Pierre Michon, c'est l'histoire politique de la tête de veau.
Et alors nous repartons un petit peu en arrière.
Eh bien, repartons, allez-y.
Alors, nous parlions en préambule de l'aspect quelque peu inquiétant de la tête de veau, comme tête de mort. La proximité entre la tête de veau et la tête du décapité a frappé les mangeurs et les passants qui ont contemplé la tête de veau au fil des siècles devant les boucheries. Or, en 1649,
30 janvier.
Le 30 janvier, les Anglais exécutent leur souverain, Charles Stuart. C'est le début d'une brève expérience républicaine.
Charles Ier.
Charles Ier est décapité, sauf erreur, à la hache.
Il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs, Alexandre Dumas le raconte, puisqu'un de ses personnages est sous l'échafaud, comme on sait. Mais ne nous égarons pas.
C'est pourtant, Alexandre Dumas et la tête de veau, c'est aussi une grande histoire d'amour. Toute considération régicide mise à part.
D'ailleurs, on peut le dire déjà, dans son fameux dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas propose plus de 10 recettes.
Ah oui, il était. Mais ça n'est pas surprenant de la part d'un gourmand pareil. Alors
revenons au malheureux souverain anglais.
Revenons-en à Charles Stuart, oui, donc, qui est décapité ce 30 janvier 1649. Les partisans de la monarchie ne peuvent manquer de suivre un service funèbre les 30 janvier des années suivantes. Et par dérision, les républicains organisent leur propre cérémonie sous une forme tout de même plus triviale, à savoir un banquet autour d'un plat censé symboliser la tête du souverain mort sur l'échafaud. Et ce plat, c'est bien entendu une tête de veau.
Il se constitue une société, d'ailleurs.
La société se constitue quelques années plus tard, lors de la restauration monarchique. La société de la tête de veau, le Calves Head Club, qui connaît une certaine longévité, puisqu'on la retrouve au début du XVIIIe siècle, même s'il est très difficile de faire la part du réel et du fantasme. Les sources principales dont on dispose au sujet de ce petit club étonnant, c'est un pamphlet, en vérité.
Alors il y a un rebond sombre, ou sinistre même, en France, avec l'exécution de Louis XVI.
Les Français reprennent cette tradition, apparemment surtout sous le Directoire, et en l'adaptant un tout petit peu, les révolutionnaires français privilégiant dans un premier temps la tête de cochon. Vous avez deux documents importants sur le sujet. C'est le petit imprimé signé d'un certain Romeau, dont on ne sait rien, la tête ou l'oreille de cochon. Et Romeau propose, donc au tout début de 1796, de fêter non pas le 30, mais le 21 janvier, jour de la décapitation de Louis XVI, en mangeant, si possible, une tête de cochon, mais à chacun selon ses moyens. Si on ne peut manger qu'une oreille, voire une petite crépinette, vous savez, cette galette de chair à saucisse qu'on fait revenir dans la poêle, eh bien, ce sera déjà très bien.
Et cette pratique va durer avec des hauts et des bas à travers le 19e siècle.
Jusqu'à nos jours. Vous trouverez encore aujourd'hui des adeptes, alors non plus vraiment de la tête de cochon, encore que, on peut être toujours surpris, mais de la tête de veau du 21 janvier. La deuxième source, donc, c'est la lettre, le brouillon de lettre du patriote Palois, qui explique
l'homme de la Bastille.
L'homme de la Bastille.
L'entrepreneur qui a contribué à détruire la Bastille.
Qui a fait une belle fortune au passage, et qui explique gentiment que lui a commencé même le 21 janvier 93 avec une tête de cochon, mais une tête de cochon farcie. Palois savait vivre. la substitution des têtes se produit visiblement dans la première moitié du XIXe siècle, mais on trouve encore des mentions de banquets ou de repas de la tête de cochon sous le Second Empire. Les têtes ont cohabité assez longtemps dans les assiettes des régicides et nostalgiques du régicide.
Il faut du temps donc, Pierre Michon, pour que votre veau triomphe du cochon.
Mais il a fini par triompher incontestablement.
Et notamment, ça se voit au moment de la révolution de 1848.
Bien sûr.
Et c'est là qu'il faut se reporter à l'éducation sentimentale de Flaubert, qui lui-même, comme vous savez, était très hostile à ce mouvement, et qui évoque cet épisode où tout à coup la tête de veau surgit dans une réunion publique des révolutionnaires. Et tout cela sous un regard goguenard de la part de Flaubert. Écoutons.
La parole est au citoyen Compin.
Citoyen, je crois qu'il faudrait donner une plus large extension à la tête de veau. Parfaitement, je dis bien, à la tête de veau. Comment vous ne connaissez pas la tête de veau?
C'est toi la plus belle. Bravo, vive la tête de veau.
Laissez-moi vous expliquer. En Angleterre, chaque année...
On a compris, la tête de veau.
Donc l'éducation sentimentale telle que réalisée par Jean-Jacques Vierne en avril 70 sur France Culture. Et l'épisode continue de la sorte lorsque Frédéric Moreau apprend le fameux de l'histoire, in extremis.
C'est une importation anglaise, lui explique Deslauriers, son compagnon de jeunesse, pour parodier la cérémonie que les royalistes célébraient le 30 janvier. Des indépendants fondèrent un banquet annuel où l'on mangeait des têtes de veau et où l'on buvait du vin rouge dans des crânes de veau en portant des toasts à l'extermination des Stuarts. Après Thermidor, des terroristes organisèrent une confrérie toute pareille, ce qui prouve que la bêtise est féconde. Bon, la conclusion est bien de Flaubert, effectivement.
Et d'ailleurs, Frédéric Moreau ne comprend le fin mot de l'histoire qu'à la fin du livre.
Exactement. Le personnage de Compin, un tout petit personnage de l'éducation sentimentale, apparaît deux ou trois fois en proposant sa tête de veau. Et à chaque fois, soit on rit comme dans l'extrait que nous venons d'entendre, soit c'est Frédéric Moreau qui lui demande de quoi s'agit-il précisément. Et Compin lui répond « Farceur, tu vois bien ce dont il s'agit ». Hop, il part d'un éclat de rire et il s'en va. C'est une plaisanterie récurrente du roman, plaisanterie un peu grasse, mais qui finit sur un ton de sérieux, d'autant plus sérieux que Flaubert, d'ailleurs, a mené ses propres recherches au sujet du rituel de la tête de veau régicide. Le rituel étant tout de même un peu hermétique visiblement pour lui-même et ses contemporains, eh bien, il avait écrit à quelques amis britanniques qui avaient inséré une question dans l'équivalent, vous savez, de l'intermédiaire des chercheurs et des curieux et obtenu la réponse souhaitée. Donc voilà, on retrouve la mauvaise humeur de Flaubert.
D'ailleurs, ce clin d'œil au banquet de la tête de veau vient grossir, vous le montrez bien, le nombre des allusions bovines que recèlent en particulier les noms de divers personnages, naturellement. Oui. Charles Bovary, mais aussi les tuvaches, les veaux frilards, on entend veau, frilard là, ou encore Bouvard, qui est l'inséparable ami de Pécuchet,
sait. C'est peut-être le Normand aussi qui cultive cette obsession pour le bovin.
Vous relevez, Pierre Michon, donc un affaiblissement de ce rite au long du XIXe siècle, mais un regain aussi après la Grande Guerre, avec la pratique du banquet qui par moments réapparaît, celle qui avait précédé la Révolution de 48.
Vous avez en fait un premier regain après 1870. Les banquets du 21 janvier sortent de la clandestinité grâce à la toute jeune Troisième République et ils ont encore du piment, du piquant, dans la mesure où rien n'est acquis pour les républicains et où les légitimistes se massent le 21 janvier pour le service funèbre de Louis XVI. Donc, dans les années 1870, les banquets de la tête de veau réunissent parfois plusieurs centaines de convives. Dès lors que la République est installée, c'est tout de même un peu moins amusant. Et on retrouve, à ce moment-là, une tension qui se perçoit dès la Révolution française entre les viscéraux et les cérébraux.
C'est-à-dire ?
Vous avez d'un côté... les républicains viscéraux, dans la lignée de ces joyeux comparses que sont Compin pour la fiction et Palois pour l'histoire réelle, et qui considèrent que la République doit avoir ses fêtes et doit parler à l'estomac, un peu comme le christianisme a pu le faire avec ses fêtes et ses plats dédiés. D'ailleurs, le programme de Romo en 1796, ce n'est pas seulement la tête ou l'oreille de cochon le 21 janvier. Il faudrait manger des petites bastilles en biscuits le 14 juillet, etc., etc. Il a tout un programme gastronomique.
On retrouve ça d'ailleurs à la gauche du Parti Républicain, Jules Vallès, par exemple.
Bien sûr. Ça devient ensuite l'apanage vraiment de la gauche, voire de l'extrême gauche.
Jules Vallès.
Vallès, qui lui-même avait cultivé la comparaison entre tête de veau et tête de décapité dans l'un de ses premiers éditoriaux, 1866. Donc voilà pour les viscéraux. Et à l'opposé, vous avez les cérébraux qui considèrent que la République, c'est tout de même d'abord une idée, des principes, des valeurs, et qui se méfient, sans doute avec raison, de ce genre de farce, de ce genre de banquet qui, à leurs yeux, discrédite totalement l'entreprise républicaine en revenant, en rappelant cet événement fondateur qu'est la décapitation de Louis XVI. Donc au mieux, le 21 janvier, on le fête discrètement et dans certains cas, on l'oublie complètement.
Portée politique de la tête de veau, puisque nous nous consacrons à ce sujet ce matin, Pierre Michon peut se retrouver, néanmoins elle chemine en profondeur, elle ressurgit. Il y a un épisode sur lequel vous insistez et qui me paraît intéressant, au service du féminisme celui-là. Je pense à l'apparition soudaine dans le bureau du directeur de Playboy d'un certain nombre de femmes nues. Expliquez-nous ça.
Alors là, on est en 1968. Épisode très étrange, évoqué très brièvement dans quelques sources. Mais alors là, effectivement, c'est l'arrivée en force. On ne sait d'ailleurs pas combien de militantes du Women's Lib sont entrées à ce moment-là dans le bureau du directeur de Playboy. 3 ou 4, on ne sait trop. Elles apportent sur un plateau une tête de veau.
Et c'est une allusion probablement à Salomé qui avait coupé la tête de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament.
Bien sûr, bien sûr. Là, c'est vraiment une autre manière de mettre en scène la décapitation de l'adversaire. On n'est plus face au tyran politique, on est face au mâle blanc, tel qu'on peut le dénoncer, face au patriarcat. Mais là, on est vraiment dans une autre atmosphère. On est dans l'Amérique des années 60.
Il y a un autre volet de cette réflexion qui est la vôtre, sur la tête de veau, c'est l'anticléricalisme.
Oui, oui. Alors, cette veine anticléricale de la tête de veau remonterait là aussi à cette période fondatrice de la Révolution française. Certains prêtres du clergé constitutionnel se seraient amusés et délectés de tête de veau le Vendredi Saint. Bon, faisons la part également des légendes, des dénonciations, des calomnies. C'est toujours très difficile de démêler le vrai du faux.
Indignation vue d'en face, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Du parti légitimiste, du parti royaliste.
Et ça continue ?
Et on continue, bien sûr, tout au long du XIXe siècle, dans la lignée des banquets gras inaugurés par Sainte-Beuve. Bon, c'est Vendredi Saint à l'envers. Les libres penseurs continuent de manger tout ce qu'ils peuvent trouver de plus riche en ce jour saint entre tous. Alors, la tête de veau arrive, mais tout de même de manière assez discrète. Ce qu'on mange essentiellement ce jour-là, c'est le gigot, ce sont les rillettes et le saucisson. On parle des saucissonniers les catholiques parlent des libres penseurs comme des saucissonniers, ceux qui s'amusent à grignoter du saucisson le Vendredi Saint.
Nous évoquions les relations entre tête de veau et littérature avec Flaubert. On peut prolonger la réflexion jusqu'au XXe siècle. La relation des surréalistes avec la tête de veau mérite l'attention, Pierre Michon.
Relation à la fois esthétique et politique. Les surréalistes se concevant comme les héritiers de la Révolution française. Par le truchement du communisme, bien souvent.
Breton rêve de remettre le banquet tête de veau au goût du jour. Et puis il y a la fameuse la fameuse photographie de Blumenfeld, le Minotaure.
C'est exactement la même période. Vous avez la conférence des 200 familles du 21 janvier 1937, titre initial, les 200 familles que le peuple abattra, qui est illustré d'un dessin de Marcel Jean représentant une tête de veau sur un plat. Et au même moment, vous avez Blumenfeld qui vient d'arriver à Paris, qui fréquente Montparnasse, qui connaît les surréalistes et qui nous propose cette photographie et même ces photographies, puisqu'il y en a trois ou quatre prodigieuses, de têtes de veau tenues par des mains humaines, plantées sur des bustes à l'antique. Une véritable tête de veau qu'il avait dû acheter chez un tripier du côté de la rue de la Gaîté où il résidait à l'époque.
C'est une charge contre le fascisme, cette célèbre photographie qui figure dans les collections du Centre Pompidou.
Et c'est toujours, là aussi, la tête du tyran. Là, c'est véritablement la tête d'Adolf Hitler. Il n'y a pas de doute sur le sujet. L'engagement anti-nazi de Blumenfeld étant bien antérieur. Et la photographie, l'une de ces photographies, étant sous-titrée « Le dictateur ».
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je voudrais maintenant, Pierre Michon, que nous en venions au volet peut-être le plus distrayant, le plus piquant, peut-être le plus insolent de notre conversation consacrée à la tête de veau ce matin, en évoquant tout ce que, d'âge en âge, les écrivains, les humoristes, les chansonniers parfois ont pu faire de ce sujet au service de l'amusement des uns et des autres,
bien
parfois
sûr,
de façon quasiment obsédante. Ils s'en servaient parfois d'ailleurs dans la polémique, ou même souvent, Voltaire déjà écrivait à D'Alembert en 1766, « Avez-vous connu, mon cher maître, un certain conseiller de la cour qui a de gros yeux et qui est un grand bavard ?» C'est un de ceux qui a condamné le chevalier de la barre. On a dit que sa tête ressemblait à une tête de veau dont la langue était bonne à griller.
La tête de veau nourrit les estomacs, c'est certain, mais elle nourrit largement les imaginations. Et si vous ajoutez à cela que la tête de veau, c'est la tête de l'autre, de préférence la tête de l'adversaire, pas simplement le tyran réel ou supposé, vous obtenez une variété infinie, ou presque, d'application de la tête de veau comme insulte. D'où la grande place de la tête de veau en argot. Une tête de veau, c'est bien sûr, comme dans le cas de cette citation de Voltaire, c'est bien sûr l'imbécile patenté, de préférence prétentieux et imbu de son petit pouvoir.
Et vu de la province, parigot tête de veau, parisien tête de chien.
Oui, voilà, qui n'a pas vraiment de connotation gastronomique, c'est plutôt une manière plus ou moins gentille de qualifier les Parisiens de crétins prétentieux.
Vous avez déjà trouvé au XVIe siècle, en 1588, dans l'œuvre d'Étienne Taboureau, Bigornure, vous avez trouvé déjà une association entre la tête de veau et la tête d'un sceau.
Alors, c'est l'amphibologie classique que l'on voit apparaître chez Taboureau, qui est nécessairement plus ancienne. Taboureau qui nous livre cette petite plaisanterie dans ses Bigarrures, 1588. Un conseiller, à l'issue du conseil, priant un de ses collègues à dîner assez froidement. L'invité lui répondit « Je vous prierai moi-même, mais je crois que je n'ai rien de bon. » Sous-entendu, rien de bon à manger. Le serviteur qui les suivait sans être interrogé lui dit « Pardonnez-moi, monsieur, vous avez une tête de veau. »
Et ce fil court à travers les siècles, en vérité.
C'est une plaisanterie inusable.
Avec cette image des yeux à fleur de tête.
À fleur de tête, oui. La physiognomonie s'est amusée à déceler les différentes caractéristiques rapprochant une tête humaine d'une tête de veau. Vous avez la blondeur, vous avez l'absence de pilosité, l'absence de barbe notamment. Vous avez la pâleur du teint. Là, on se rapproche davantage de la tête de veau blanchie et chaudée des triperies.
Les chauves et les glabres pendant une époque où...
Les tondus aussi. Tout ce qui est au service de la force publique et qui porte le cheveu court s'expose assez facilement au colibé de tête de veau.
Et puis quand on pense à la tête de veau, on ne peut pas faire l'économie d'une citation de Knock, de Jules Romain, avec Louis Jouvet, vous savez, le médecin qui vient expliquer à la ville entière que chacun y est malade. Et en particulier, il commence avec le tambour. Bref citation.
De quoi souffrez-vous?
Ah, attendez que je réfléchisse.
Et voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille.
Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ça me gratouille. Mais et ça me chatouille bien un peu aussi.
Désignez-moi exactement l'endroit.
Par ici.
Par ici. Et où ça, par ici?
Là, ou peut-être là, entre les deux.
Juste entre les deux. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt?
Il me semble bien.
Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt?
Oh, on dirait que ça me fait mal.
Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette?
Je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus.
Très important. Très important.
Ce dialogue est fameux, évidemment. Pierre Michon, entre Louis Jouvet et Romain Bouquet, qui interprète le tambour, un enregistrement de 1933.
Extrait très intéressant sur le plan de la médecine et des préjugés en matière de cuisine. L'honnêteté nous commande de reconnaître avec Jouvet et Jules Romain que la tête de veau a aussi mauvaise réputation au fil des siècles. On la considère notamment comme indigeste, ce qui est absolument injuste.
Je salue votre enthousiasme en faveur de la tête de veau.
Enthousiasme.
Qui éclate tout au long de cette émission.
Enthousiasme absolu. Et c'est surtout la fortune littéraire et théâtrale de la tête de veau que l'on retrouve avec un extrait si formidable. La tête de veau est une habituée du théâtre depuis les belles heures du vaudeville sous Louis-Philippe. C'est un accessoire de théâtre, c'est une évocation théâtrale et c'est un moyen de faire rire. Courteline, toujours lui, nous explique qu'il y a quelques mots comme ceux-là qui ont le don de faire rire à travers les époques, qui ont fait rire nos grands-parents et qui feront rire nos petits-neveux, et que la tête de veau est de cela. Vous ne trouvez pas que le simple fait de prononcer les mots tête de veau, ça vous donne envie de sourire?
Oui, le théâtre et même le cinéma, un des tout premiers films d'Alice Guy de 1899, au tout début du cinéma muet, qui est consacré précisément sous le titre, je crois, La tête enchantée ou Les méfaits de...
Les méfaits d'une tête de veau, oui, mais le film a connu plusieurs titres, comme c'était l'usage à l'époque. Quoi qu'il en soit, la tête de veau est l'une des premières vedettes du cinéma français et donc mondial.
C'est une vedette aussi du répertoire des chansonniers, comme en témoigne cette chanson de Georgius, fameux chansonnier de l'entre-deux-guerres, interprétée par lui en 1936, et qui s'appelle « Du persil dans les narines ». Nous n'avons pas dit que le persil, c'est parti en fait de la mémoire ou de la prégnance de la tête de veau.
Ah oui, c'est le persil est à la tête de veau ce que la sardine est à l'huile.
Soit. Mais écoutons Georgius en 1936.
Pour acquérir dans la vie une vraie personnalité, chacun recherche à l'envie une particularité. Pour situer un personnage, un détail bien souvent suffit. Regardez donc l'étalage des tripiers, ils ont compris. Car ce qui rend si beau une tête de veau,
c'est le persil dans les narines.
Ce qui lui donne cet air à la fois doux et fier,
c'est le persil dans les narines.
D'où vient son œil rêveur et sa grande fraîcheur,
c'est du persil dans les narines.
Alors ce qu'il nous faut pour être originaux,
c'est un moine persil dans les naseaux.
L'autre soir à la Madeleine, près d'un vieux chauve tout rasé, une péripatéticienne discutait le prix de la soirée. Il offrait si peu de galettes que soudain elle crie, tu m'assommes. Tu es moche, t'as l'air d'une chouette, d'un singe ou du bébé cadome. Car ce qui rend si beau une tête de veau,
c'est du persil dans les narines.
Ce qui rend si mimi le flic de la Porte Saint-Denis,
c'est son persil dans les narines.
Ce qui donne à ce dictateur un grand air de fureur,
c'est son persil dans les narines.
Ce qui donne à Herriot l'allure d'un gigolo,
c'est son brin de persil sous les naseaux.
C'est visiblement là, Pierre Michon, une de vos chansons favorites, puisque vous la chantonniez en même temps que nous l'écoutions.
Mais c'est irrésistible, absolument irrésistible. Je voudrais faire une mention spéciale pour l'orchestre de Joe Bouillon, qui accompagne ici l'excellent Georgius, dans une version nécessairement un peu édulcorée, puisque destinée à l'enregistrement, vous savez que les versions en public de Georgius étaient beaucoup plus corsées. Je serais curieux de savoir ce qu'il a pu trouver devant son public sur scène
trop tard.
Et Joe Bouillon, d'ailleurs, a fini sa carrière comme restaurateur. Je ne sais pas s'il y a un lien avec du persil dans les narines.
Comme son nom l'indiquait.
Le bouillon de la tête de veau.
Soyons moins gamins et revenons d'abord à la publicité qui souvent utilise la tête de veau pour promouvoir tel ou tel produit.
La publicité d'entre-deux-guerres, oui. On peut penser notamment à cette affiche pour le jeune canard enchaîné. On peut ne pas aimer la tête de veau, mais on ne peut pas ne pas aimer le canard enchaîné.
On peut enfin revenir à l'utilisation de la métaphore de la tête de veau dans le monde politique. Avec de longues citations que vous nous donnez d'utilisation de la formule dénigrante par les adversaires. Il n'y a guère d'homme politique majeur qui n'ait pas été traité de tête de veau, à vous croire.
On retrouve...
Sous la Troisième.
Oui, sous la Troisième. C'est très Troisième République.
En somme, on pourrait parler d'une sorte de panthéon des têtes de veau sous la Troisième République.
J'essaye de reconstituer ce panthéon étrange dans l'un des chapitres de l'ouvrage. On y croise nombre de personnalités éminente, Ernest Renan, une tête de veau qui a les rougeurs et les callosités d'une fesse de singe.
Ça, ce sont les Goncourt.
Ce sont les Goncourt, tout à fait. Vous avez Jules Grévy, tête de veau. Scheurer Kestner, tête de veau sénatorial. Ferdinand Sarrien, l'homme et même le sphinx à tête de veau, d'après Édouard Drumont. Et j'en passe et des meilleurs, notamment tout de même Joseph Caillaux, un des plus célèbres chauves de son temps, qui fut surnommé le ministre à tête de veau dès 1902 et à qui le célèbre caricaturiste Sénèpe a dédié un petit hymne à la tête de veau en 1928.
Et puis pour finir, il faut naturellement en venir à Chirac. Non pas qu'il ait été dénigré par une comparaison avec la tête de veau, mais parce qu'il a incarné aux yeux de la France entière, peut-être de l'univers, peut-être du monde entier,
bien sûr, un
attachement à la tête de veau. Écoutons le 17 mai 1996, il est en Grande-Bretagne.
Quant au bœuf royal, que j'ai goûté ici avec beaucoup de plaisir, permettez-moi de vous dire que si l'on veut avoir du bœuf royal, il faut d'abord avoir un veau. Et que comme tous les veaux, naturellement, ne peuvent pas devenir des bœufs, alors il faut bien aussi les manger. D'où l'importance qu'il y a également à sauvegarder la tête de veau.
Nous y voilà, Pierre Michon. Et pourtant, la chronique nous dit maintenant que il avait été un peu accablé par cette légende. Et d'ailleurs, il avait remplacé la tête de veau par la pomme à un moment donné.
Sans doute, le besoin d'un peu de fruits s'était-il fait sentir.
Le cuisinier de l'Élysée, interviewé, avait dit qu'en réalité, il lui avait enjoint de ne plus lui servir de tête de veau.
Alors, il faut bien dire que donc, l'élection de 1995, enfin victorieuse, arrive après, au bas mot, deux décennies de passion entre Jacques Chirac et la tête de veau. Donc, je crois... De toute façon, Jacques Chirac était gourmand et il mangeait à peu près de tout, en abondance.
Surtout au Salon de l'Agriculture, quand il l'inaugurait, il était obligé d'ingérer plusieurs têtes de veau.
Véritable marathon gastronomique. Tout commence, en vérité, lors de son élection comme député de la Corrèze, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, lors de son passage au ministère de l'Agriculture, 1973. Vous avez le scandale du veau aux hormones. Vous avez nécessité toute particulière de défendre la filière bovine. Ça tombe bien, ça tombe d'autant mieux que la Corrèze est connue pour l'importance de son élevage bovin et notamment pour l'importance de l'élevage de veau. Donc Jacques Chirac se fait à ce moment-là le défenseur acharné de la tête de veau. Il a bien compris également toute la sympathie que ce plat pouvait lui attirer.
On peut dire aussi que ayant était ensuite Premier ministre entre 1974 et 1976 et ayant eu des relations difficiles avec le président de la République, Giscard d'Estaing, ce goût affiché pour la tête de veau pouvait faire contraste avec une certaine image du président de la République.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, un peu plus tard, le moyen de se démarquer d'Édouard Balladur. La tête de veau, c'est à la fois les racines rurales de la France et les racines populaires faubouriennes. Donc Jacques Chirac fait coup double en se régalant de tête de veau, puis de tête de veau spécialement sauce gribiche. L'emblème chiracien se précise et se peaufine au cours des années.
Vous concluriez donc notre conversation, Pierre Michon, en disant qu'il y a une couleur politique de la tête de veau, ou qu'elle se prête finalement au long des âges à des interprétations de toutes sortes, si. Avec une sorte de flexibilité qui lui serait propre.
C'est tout à fait vrai. La tête de veau, c'est une anguille, toute plaisanterie mise à part. Et c'est ce qui m'a rendu son commerce particulièrement agréable. Dès que j'essayais de la cataloguer ou de lui coller une étiquette quelconque, elle se défilait, elle se débinait vers d'autres horizons sociaux, politiques, géographiques. Et c'est véritablement la force d'un plat comme celui-là de nourrir véritablement notre imaginaire.
Polysémie de la tête de veau, en somme, si on veut être un peu prétentieux dans son expression.
Mais ce n'est pas faux.
C'est pas faux, eh bien nous resterons avec cette idée-là. Merci beaucoup Pierre Michon. Votre ouvrage s'appelle « Petite histoire de la tête de veau » et il vient de paraître chez Talendier tout récemment. Je voudrais signaler aussi que vous aviez, puisque j'ai rappelé que vous étiez rédacteur des débats dans la Haute Assemblée au Sénat, il faut que je signale la publication il y a 5 ans avec Hugo Cognier d'un ouvrage qui s'intitule « Servir les assemblées », 2 tomes chez Marre et Martin. De quoi s'agissait-il ?
D'une histoire et d'un dictionnaire de l'administration parlementaire. Sujet peut-être un peu plus austère que la tête de veau, mais non moins passionnant.
Auparavant, vous avez fait une thèse sur les préfets de la Restauration. Est-ce qu'ils mangeaient de la tête de veau ?
Ah, j'en suis bien certain, oui. D'ailleurs, il y a quelques échos entre les agapes chiraciennes et les démonstrations gastronomiques auxquelles les préfets de Louis XVIII pouvaient se livrer. Vous trouvez notamment dans un très joli volume de mémoires d'un des préfets de cette époque qui fut en poste dans l'Aveyron 1815-1818 certains souvenirs de ces visites à travers la campagne où les maires et les épouses des maires de diverses localités prenaient vraiment un soin presque terrible à gaver ce bon préfet de tout ce qu'il pouvait y avoir de meilleur, et notamment de tête de veau.
Décidément, elle est partout. Vous l'avez démontré aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous surtout.
Merci Pierre Michon.
Je suis né à Rambervillers, tout près d'Épinal, dans les Vosges. À 3 mois comme tous les bébés, on collait déjà dans mon auge. Pas de lait ni de bouillie, pas de ce mais un frichti bien plus costaud. Je me jetais derrière la barre boiteuse, une saine assiette de tête de veau.
La tête de veau se fait dans la marmite, dans la marmite se fait la tête de veau. La tête de veau se fait dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une bonne tête de veau? Deux têtes de veau.
À l'école de Rambervillers, l'instituteur qui est un puits de science pour les mots, mais c'est de rectifier les erreurs de l'histoire de France qu'Henri IV voulait le dimanche. L'histoire dit que c'est la poule au veau. En vérité, en fait, viande blanche, ce qu'il voulait c'est la tête de veau.
La tête de veau se fait dans la marmite, dans la marmite se fait la tête de veau. La tête de veau se fait dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que 2 bonnes têtes de veau? 3 têtes de veau.
Pierre Provence, en 1968, interprétait une chanson de Jean Lacroix et Maurice Larchange, La tête de veau. Et tandis que nous l'entendons, j'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama aujourd'hui et réalisée par Vincent Abouchard, comme chaque semaine, avec à la prise de son Stéphane Foulon, à la discothèque Célian Guillemard et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Émilie Lacou.
La tête de veau se fait dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que 4 bonnes têtes de veau? 5 têtes de veau. 6 têtes de veau. 7 têtes de veau. 8 têtes de veau. 9 têtes de veau.